CKRL passe en mode financement. Devenez membre de CKRL pour seulement $25 et soutenez la création radiophonique la plus inédite. Être membre de CKRL, c'est encourager les artisans bénévoles qui créent 365 jours par année des émissions de grande qualité. Être membre, c'est aider la relève artistique en musique, art visuel, théâtre, littérature et la danse. Profitez de votre carte de membre en adhérant maintenant au coût de $25 et bénéficiez de rabais chez plusieurs marchands de la région de Québec. À noter que votre carte est maintenant valide pour un an à la date d'adhésion. Envoyez votre don avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner un certificat de $300 du restaurant Le Poisson d'Avril. Téléphonez au 88-640-2575 ou adhérez en ligne à ckrl.qc.ca. Le tirage aura lieu le 1er avril à 17h. CKRL passe en mode financement. Investis ton studio. Vous voulez devenir partenaire majeur de votre radio préférée de manière originale? Investis ton studio et la façon artistique de soutenir CKRL pour $891. Cela vous donne droit à une œuvre originale et artistique qui sera exposée en permanence dans notre studio principal dans le but de créer une murale mixant des paysages urbains de Limoilou et de Québec. Envoyez votre don avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner un certificat de $300 du restaurant Le Poisson d'Avril. Le tirage aura lieu le 1er avril à 17h. Beauport, Charlebourg, la cité.
Le Carrefour de Québec parle de vous.
Les rivières.
C'est votre portail sur l'actualité locale et communautaire.
Limoilou.
Un média citoyen qui diffuse vos opinions et vos événements. C'est votre espace pour rester à l'affût des grands débats qui vous concernent. Actif et impliqué, le Carrefour informe et rassemble les gens d'ici.
Ne manquez pas à tous les lundis, 8h45, la chronique de Marie-Claude Boileau, rédactrice en chef du Carrefour de Québec, dans l'émission Avant 9h, tout est possible.
Le Carrefour de Québec, c'est l'hebdomadaire qui vous appartient.
Les rivières.
Consultez le Carrefour de Québec en ligne au carrefourdequebec.com.
Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias et du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Vous avez développé votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Mine Cassée du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
Là, tu dis, c'était gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben, nous autres avec.
Le 19 février. De 13 à 14 heures, CKRL vous présente Contes de fées, animé par Olivia Vu en direct du Studio P. Au menu, via Skype, des entrevues avec Noémie Forget et Mélanie Watt, la chronique de Tania Masso, libraire chez Pantoute, et une lecture avec la comédienne Isabelle Beaulieu. Des gourmandises seront offertes, une courtoisie de la boîte à pain Café Napoli. Prix de présence en livre à la fin de l'émission. Entrée gratuite. Une invitation de CKRL, de la librairie Pantoute et du Studio P. 280 rue Saint-Joseph.
Cultive tes goûts.
Aujourd'hui la télé. Oui, bonjour à tous. On a eu un bout de Dédé Fortin qui grugeait le début de l'émission, peu à peu le début de l'émission au 7e ciel. Regard sur le cinéma, Guillaume Lafleur avec vous de 16h30 à 17h, voilà, de 16h à 17h30, excusez-moi, sur les ondes de CKRL. Regard sur le cinéma, on va faire un tour dans les zones plus ou moins confortables du cinéma expérimental cette semaine. J'avais déjà commencé à en parler un peu la semaine dernière à travers l'exemple de deux cinéastes. Un cinéaste américain qui s'appelle Harry Smith, qui est décédé en 91, qui a eu un parcours assez fascinant des années 60, en fait des années même dès le début des années 40 jusqu'à la fin de sa vie. Et j'avais parlé également d'Étienne O'Leary, sur lequel je reviendrai rapidement. Peut-être en cours d'émission, un cinéaste québécois qui a surtout travaillé en France sur une courte période, en fait, de 66 à 68 principalement. Ses trois principaux films datent de cette période-là. Et ces deux cinéastes étaient présentés dans un programme que j'ai moi-même concocté le mercredi dernier au Musée de la Civilisation en soirée dans le cadre du mois Multi 12. Un programme qui s'appelle Battement de cœur du cinéma. Et au-delà des exemples de Smith et d'O'Leary dont j'ai déjà parlé un peu la semaine dernière, il y avait aussi quand même beaucoup de cartes de ce qu'on peut qualifier de manière assez large le cinéma expérimental qui était brassé. Entre autres, j'ai brassé la carte cinéma d'animation avec une tentation de l'abstraction, une tentation d'aller vers l'abstrait. Donc des cinéastes d'animation qui ont plutôt fait des films parfois figuratifs, mais bon, qui représentent principalement des formes, donc qui sont pas en train de créer une sorte de récit cinématographique, mais davantage une forme de cinéma qui renvoie aux arts plastiques, ou alors carrément des films d'animation qui sont littéralement abstraits, qui sont difformes, qui impliquent parfois simplement des mouvements de lignes, des enchaînements de couleurs, etc. Et en particulier, il y a des films qui ont été présentés, des copies assez rares en fait, de films de Len Lai, cinéaste d'origine néo-zélandaise, qui a travaillé entre autres en Angleterre et aux États-Unis dans le milieu de sa carrière, en fait, pour une bonne part de sa production la plus célèbre. Et donc, je vais revenir un peu sur ces films de Len Lai, qui étaient la part joyeuse, disons, la part vive et qui amenait l'adhésion du public dans le cadre de ce programme de mercredi. Parce que c'est pas toujours évident, évidemment, il y avait un contenu dans ce programme qui était relativement radical, et c'est pour ça aussi peut-être que j'ai envie d'en parler aussi de ce contenu radical avec l'exemple de Michael Snow. Michael Snow, qui est non seulement un cinéaste, mais aussi évidemment un photographe. Pour ceux qui connaissent un peu l'art contemporain, c'est une figure majeure et une référence majeure dans l'art contemporain canadien et au-delà. Il a fait aussi beaucoup de films expérimentaux dès les années 50, entre autres des films d'animation. Mais je parlerai plutôt du film qui a été présenté mercredi en particulier, qui s'appelle New York Eye and Ear Control. Donc un film particulièrement énigmatique qui, après la projection, suscitait plusieurs interrogations des spectateurs à laquelle il était difficile de répondre, disons, dans les allées de la salle du film en sortant. Et je pense que ça vaut la peine pour vous, auditeurs qui n'avez pas vu le film, peut-être, de mettre un éclairage neuf sur cette dimension énigmatique du film New York Eye and Ear Control. Et en fait, j'aimerais aussi parler un peu, pour terminer, et en changeant tout à fait de registre, d'un cinéaste qui s'appelle Whit Stillman. Un cinéaste qui n'est plus vraiment productif aujourd'hui, mais qui a fait trois films très surprenants dans un contexte, je dirais, du nouveau qui serait le nouveau cinéma américain des années 90. Donc son premier film, qui est peut-être un de ses plus connus, est Metropolitan. Et ensuite, il a enchaîné deux autres films qui sont dans le même esprit, soit Barcelona et le film The Last Days of Disco, qui fait un peu le pont avec les propos que je tenais juste auparavant dans l'émission de Jean-Denis Côté sur le film Funky Town. Mais vraiment dans un tout autre registre, ça pourrait même être amusant tout à l'heure de faire le pont entre deux manières de représenter la fin de la culture disco. Celle qui avait cours à New York au Studio 54, par exemple, et celle qui avait cours aussi à Montréal autour de la même période.
Thank you.
Oui, on vient d'entendre la pièce Multiculta de Benoît Delbecq. Benoît Delbecq, un pianiste de jazz pas si connu, en fait, surtout connu de biais par, à cause des gens qui l'ont accompagné. Entre autres, il était membre du groupe qui a accompagné au début des années 2000 Philippe Catherine. Il était membre du groupe The Recyclers. Mais c'est aussi un pianiste fameux. Discret pour les gens attentifs qui consultent régulièrement les revues de jazz, ils ont peut-être remarqué qu'il y avait un article il y a quelque temps sur Benoît Delbecq où il témoigne du fait justement de cette discrétion qu'il caractérise, tout en considérant que d'un autre côté la reconnaissance vient entre autres par le biais de tout un milieu de jeunes pianistes internationaux qui viennent d'un peu partout en Europe ou même du Japon pour travailler avec lui, pour assister à des masterclass, etc. Donc Benoît Delbecq, une figure tout à fait stimulante du jazz français contemporain. J'aimerais justement, puisque j'ai utilisé un peu de jazz pour me réchauffer, parler de Len Lai qui est donc un cinéaste. On pourrait qualifier de cinéaste d'animation au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que pour Len Lai, le rapport à l'image, à la couleur, à la matière même du film, à la pellicule, est consubstantiel de son travail. C'est pas simplement la volonté de créer des récits qui animent son cinéma. Généralement, c'est des films très courts. Je peux peut-être faire un portrait, disons, biographique rapidement de lui pour mieux saisir à la suite dans quel univers ce cinéaste nous plonge. C'est un cinéaste pionnier, qui est né en 1901 en Nouvelle-Zélande et qui, très rapidement, en fait, dans sa pratique d'art, qui est d'abord une pratique d'artiste visuel, voilà un bon exemple de cinéaste venant du milieu des arts visuels qui a bifurqué vers le cinéma et qui fait la preuve par quatre que le cinéma est aussi par quatre, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas il fait la preuve que le cinéma est aussi un art visuel. Donc il s'est inspiré dans son art dans un premier temps, et c'est sans doute pas étranger à ses origines néo-zélandaises, à l'art aborigène. Ensuite, il s'est quand même rapidement installé à Londres, donc autour de 1926 à 25 ans. Il prend part à un groupe moderniste qui s'appelle Seven and Five Society et qui s'intéresse donc à la non-figuration et à toute une forme d'art qui inspirait déjà Len Lai avant même qu'il se déplace en Angleterre. Mais le fait est qu'il se tonne assez rapidement du statisme inhérent au fait de, par exemple, créer des tableaux ou des œuvres d'art dans les galeries. Et c'est en 1929 qu'il va réaliser un premier film qui s'appelle Tusalava, qui est une sorte de flop, si on veut. donc ça n'a pas été un succès. La reconnaissance a été vraiment limitée à ce moment-là, en 1929. Donc, un film qui est constitué de 4000 dessins. Un film très bref, mais déjà constitué de 4000 dessins. En 1933, il va créer son deuxième film, réaliser son deuxième film, qui est un film de marionnettes. Et il doit déjà commencer à se trouver des commanditaires pour faire ses films. Donc, contrairement aux artistes visuels qui d'office devaient se trouver un galeriste ou alors une sorte qui agissait à titre d'agent pour les représenter, est contraint compte tenu de la forme d'art qu'il privilégie, qui est encore une forme évidemment particulièrement associée à la culture populaire. Hein, évidemment, le cinéma à partir de ses débuts jusqu'au moins la première moitié du 20e siècle est d'abord un art populaire, un art qui va attirer les foules, et tout ce qui a pu se faire en parallèle à cette manière d'envisager le cinéma était forcément marginalisé. Et du moment que ça demandait beaucoup de moyens techniques, en fait, soit on avait beaucoup d'argent, soit il fallait trouver un commanditaire. Et c'est le cas très rapidement pour les films de Len Lai, dès 1935, quand il commence à faire des films en couleur. En 1935, ça s'appelle A Color Box, qui est la première œuvre qu'il réalise avec des images qu'il peint directement sur la pellicule. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure que Len Lai est un cinéaste qui s'intéresse à la matière du film, donc à la pellicule, au photogramme, c'est parce qu'il peint directement dessus. C'est pas des films qui captent des dessins par la caméra, comme c'est le cas dans le dessin animé ou cinéma d'animation classique ou traditionnel, c'est pas non plus un décor plus ou moins disons immobile qu'on va animer de manière très laborieuse évidemment à l'époque comme l'avait fait Len Lai avec ses films de marionnettes. Donc dès le milieu des années 30, on va plutôt opter pour une manière de mettre en valeur toute la force plastique, matérielle du cinéma et de l'image cinématographique qui peut tout de suite être valorisée simplement en peignant dessus. Ça a l'air simple, mais évidemment, c'est pas si simple que ça. Et en fait, Len Lai va, dès cette période, opter aussi pour une musique étonnante, soit une musique blues, soit une musique pas nécessairement aborigène, ça va arriver parfois, mais dans les années 30, blues, musique cubaine aussi, donc une volonté comme ça d'utiliser des musiques exotiques pour mieux mettre de l'avant toute la dimension plastique, rythmique qu'il crée en peignant sur la pellicule. Donc c'est très particulier chez Len Lai, cette idée de considérer qu'en peignant sur la pellicule, c'est possible de mettre en valeur le médium à un large public, et il va le faire entre autres une fois qu'il aura eu des moyens évidemment par des commanditaires, par exemple des compagnies d'aviation ou des manufacturiers de cigarettes. Il ajoute une musique entraînante qui rend le film immédiatement accessible. Et c'est ce qui fait aussi toute la qualité de Len Lai, c'est cette capacité à avoir une vision avant-gardiste de son médium, sans pour autant perdre de vue que au milieu des années 30, le cinéma qu'on présente au grand public très très simple, atteint une forme d'expression qui est presque pure, dont on s'inspire encore aujourd'hui. Donc l'idée pour Len Lai était, à travers une volonté d'inventivité très grande, de rejoindre le plus large public. Il y a réussi entre autres par l'usage de la musique. Et il va le faire encore davantage dans les années suivantes, où il va renforcer ça en travaillant directement sur la pellicule, cette fois-ci en la grattant. C'est le cas d'un film qu'il fait entre autres au milieu des années 50 qui s'appelle Free Radicals, qui est un film légendaire, une référence en fait pour le cinéma d'avant-garde, donc au-delà du cinéma d'animation. Free Radical est un film gratté sur la pellicule qui utilise encore là une musique africaine, une musique tribale africaine de percussion, pour mettre en valeur finalement un jeu de lignes. C'est-à-dire que ce qu'on voit qui est gratté sur la pellicule par Len Lai, probablement par une petite lame assez fine, c'est des lignes. Donc c'est, pour nous spectateurs qui avons vu ce film mercredi dernier au Musée de la Civilisation, des éclats de noir et de blanc, un jeu sur le noir et le blanc dans sa forme la plus pure. Évidemment, le cinéma de l'époque était très élaboré, disons le cinéma avec des acteurs évidemment figuratifs, le cinéma dramatique était très élaboré en termes d'éclairage, en termes de clair-obscur, de mise en valeur des rapports entre le noir et le blanc. La couleur avait déjà fait son apparition évidemment depuis un bout de temps, mais le point... Le point limite dans l'expertise liée à la manière d'utiliser le noir et le blanc en cinéma était atteint à cette période-là. Et c'est comme si, dans une volonté d'épuration assez extraordinaire, Len Lai démontrait en fait cette expertise et cette puissance dramatique qui anime les images du noir et du blanc dans des films, par exemple, tout à fait respectable et bien connu comme Casablanca de Michael Curtis au cours des années 40, qui était éclairé par des lampes extrêmement extrêmement puissantes, et qui film évidemment avec Bogart et Ingrid Bergman, éclairé avec des lampes extrêmement puissantes qui renforcer, si on veut, le caractère, disons, intense de certaines situations que pouvaient vivre les personnages du film. L'intensité dramatique pouvait, en fait, être valorisée par la lumière. Et ce que fait Len Lai dans Free Radical, par exemple, c'est jouer sur ce contraste entre le noir et le blanc, en surprenant le spectateur par les mouvements de simples lignes qui en viennent à créer une force stroboscopique, plastique, qui fascine en soi. Et c'est vrai que de cette manière-là, Len Lai révèle dans ses films ce qui n'est pas si clair dans des films figuratifs, dramatiques comme Casablanca, c'est-à-dire la simple puissance plastique des effets de contraste entre le noir et le blanc, qui en soi crée de la fascination. Crée de la fascination pour le spectateur, au-delà de l'intérêt qu'on peut porter au récit, au-delà de la situation dans laquelle se trouvent les personnages. Il y a cette fascination simplement liée au savoir-faire des artisans du cinéma, consistant à jouer sur les contrastes entre le noir et le blanc. Ça va être mené dans ses plus profond retranchement, disons, avec un film comme Free Radicals. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, encore maintenant, toute la richesse de ce cinéma de Len Lai, qui par ailleurs, s'il avait été créé aujourd'hui, puisque c'est encore avant-gardiste et ça surprend encore les spectateurs qui voient ces films-là, en tout cas c'était le cas mercredi dernier, sûrement que s'il créait des films de ce type-là aujourd'hui, ils iraient immédiatement dans les salles de musée. Comme c'est le cas de certains cinéastes qui font des films inspirés de Len Lai de manière directe ou indirecte. Par exemple, Mamori, le plus récent film de Carl Lemieux, réalisé à l'ONF, qui joue sur ces contrastes entre le noir et le blanc, qui fait un travail sur le son à partir d'un effort d'archivage sonore capté dans la jungle amazonienne. Donc, toute cette référence aborigène, on la retrouve aussi chez Carl Lemieux, cinéaste québécois qui travaille à l'Office national du film. Avec cette bande-son, il ajoute aussi un travail assez abstrait sur les contrastes entre le noir et le blanc. Cette œuvre-là a été présentée pour la première fois au Musée d'art contemporain il y a quelques mois.
Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias et du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Vous avez développé votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nincassé du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
Là, tu dis c'était gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben, nous autres avec.
Plus 70 000. C'est précisément le nombre de personnes qui écoutent CKRL 89.1 dans la grande région de Québec et les environs. Depuis 1973, grâce à vous, CKRL se construit, se bâtit, évolue et grandit. Toujours à l'écoute. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Tous les jours de la semaine, de 13h30 à 15h30, Le Cercle vous présente l'émission Nouveau Cru sur les ondes de CKRL. Des après-midi dédiés aux nouveautés d'ici et d'ailleurs au pays. Une programmation résolument actuelle à l'image du Cercle.
À ne pas manquer en février, le cabaret audio du mois multi, le 4, le brunch animé avec Michel Falardeau et la soirée pour Mélomane Averti mettant en vedette le très attendu Colin Stetson, décédé de Tim Ecker, suivi par This Is Not Design et un DJ set de Junior Boy. Le 5. Le 10, dans le cadre du Off Carnaval de Québec, Max Bérubé and the Patriotic Few. Et le 11, Poirier et invité. Le 12, ce sera le lancement de la compilation Iceberg 2011 avec Stephen Beaupré dans le cadre du Mois Multi. Le trait du cercle.ca.
Thank you.
Guillaume Lafleur avec vous sur les ondes de CKRL. On vient encore d'entendre l'excellent Benoît Delbecq, cette fois avec la pièce Yompa. Juste avant la pause, je parlais des rapports entre le cinéma du néo-zélandais Len Lai et la musique aborigène, la musique africaine. Il me semble que la pièce Yompa de Benoît Delbecq fait bien le pont avec la deuxième demi-heure de cette émission d'une heure trente. Toujours avec vous pour parler cette fois d'un autre cinéaste, en fait, sous l'influence de ce cinéma non figuratif qu'on peut qualifier de cinéma d'animation, mais qui s'y restreint certainement pas, en fait, qui amène la forme cinématographique elle-même à être réinventée, à être questionnée sous toutes ses coutures. Ma question, en fait, en terminant la première demi-heure de l'émission, était quelle est l'influence aujourd'hui d'un cinéaste comme Len Lai? Évidemment, son cinéma, qui entre autres impliquait de gratter parfois la pellicule ou de peindre directement sur la pellicule, résonne pour nous de manière évidente, disons pour nous Canadiens, entre guillemets, pour ceux qui connaissent bien le répertoire, ou même qui en ont une idée quand même vague, mais assez juste, le répertoire du cinéma d'animation canadien, évidemment. Impossible de passer outre aux œuvres de Norman McLaren, qui a largement fait usage de soit de la pellicule grattée dans ses films, soit peinte, de diverses manières, en fait, et surtout des films non figuratifs où il grattait aussi la pellicule littéralement pour créer des effets de son. Il peignait la pellicule et ça créait des effets de son. Il y avait certaines techniques qu'il utilisait qui a été bien montrée. J'en parlais il y a quelques semaines lors d'une exposition à la maison Amel Bruno cet automne, concerto en bleu majeur. C'était bien montré dans un extrait de cette exposition où l'on voyait un documentaire avec Norman McLaren qui peignait sur la pellicule et lorsqu'il la faisait projeter et qu'il peignait proche de la section de la pellicule qui est perforé pour le son, ça créait des effets sonores particuliers, selon d'ailleurs le type de trait qu'il faisait. Donc c'était carrément de la peinture sur pellicule qui impliquait un changement en ce qui a trait au son. Et le rapport entre le son et l'image n'a peut-être jamais été aussi fort que dans le cinéma de Norman McLaren. Et évidemment, Norman McLaren a pu se faire questionner au cours de sa carrière sur ses relations avec le cinéma de Len Lai, Len Lai étant un pionnier de cette manière de faire, c'est-à-dire faire des films sans caméra, ce qui semble une aberration, mais en même temps, on a maintes fois prouvé que c'était possible de le faire. Norman McLaren, dans un entretien d'un film fameux fait pour la série cinéaste de notre temps, dans les années 60, une série fameuse parrainée par Jeannine Bazin et Andreas Labarthe en France qui a été l'occasion de rencontrer plein de cinéastes à travers le monde, parfois des témoignages uniques de cinéastes que Labarthe et Bazin avaient réussi à approcher, ainsi que leurs réalisateurs complices, entre autres des rencontres exceptionnelles avec Renoir, avec John Cassavetes, avec Fritz Lang, un dialogue magnifique entre Jean-Luc Godard et Fritz Lang, etc. Donc, dans l'entretien qu'il y a avec McLaren dans cette série, McLaren répond à la question « Connaissez-vous les films de Len Lai, finalement, au cours des années 30, lorsque vous avez commencé à vous-même à faire des films? » McLaren, à l'époque, faisait des films au Royaume-Uni dans un contexte, disons, de ce qu'on appelait, la différence entre cinéma industriel et cinéma plus léger, indépendant, à l'époque, était vraiment plus radical. On distinguait le cinéma industriel et le cinéma amateur. Et dans les années 30, dans un premier temps, Norman McLaren, qui avait déjà une grande maîtrise de son médium, entrait dans la catégorie cinéaste amateur, puisqu'il était indépendant. Et dans ce contexte-là, il s'est fait connaître au Royaume-Uni, et on lui demande s'il avait, à l'époque, déjà pris connaissance des films de Len Lai, puisque Len Lai vivait en Angleterre, et il faisait des films. Et McLaren dit non. Mais on peut se douter, du moins, si c'est vrai, et on est bien prêt à le croire, que des proches de McLaren, avec qui il travaillait ou qu'il côtoyait, parce qu'on suppose qu'il parlait à des gens, il était indépendant, mais il était certainement parfois sous influence, comme chacun d'entre nous, ont pu être impressionnés par des œuvres de Len Lai et en parler, ou en tout cas de manière indirecte à McLaren, de telle sorte que ça a eu un impact sur son travail. Une chose est certaine, c'est que lorsque une œuvre est faite quelque part dans le monde et qu'un autre créateur a une sensibilité qui se rapproche de cette œuvre, il est fort probable qu'il y ait une résonance entre elles, même si les deux se connaissent pas, soit les deux créateurs, soit les œuvres ne se sont pas rencontrés officiellement. Forcément, il y a des jeux de résonance ou d'influence à certains moments de l'histoire qui ont juste à voir avec le fait d'être contemporains. Donc, quelle est l'influence du cinéma après ce grand aparté? Quelle est l'influence du cinéma sans caméra réalisé dans les années 30, 40, 50 par des gens comme Norman McLaren aujourd'hui? J'ai parlé de l'exemple de Mamory, de Carl Lemieux, juste à la fin de la première demi-heure. Il y en a un autre qui est passionnant, en fait, un grand cinéaste contemporain, qui est montréalais, qui est sans doute pas assez connu du grand public, en tout cas, c'est certain, qui s'appelle Stephen Volution, qui était certainement un des coups d'éclat formidables de la fin de la programmation de films expérimentaux présentés au Musée de la Civilisation ce mercredi. Volution, c'est donc un montréalais né en 60, qui est un spécialiste des œuvres peintes sur pellicule, qui a fait des études à Vanier et à Concordia, où il a commencé à travailler sur du 16 mm. Et puis, à partir de 82, il fait un travail de film sans caméra, mais bon, après un aparté de plusieurs années, il revient au cours des années 90 à un travail sur pellicule sans caméra. Mais là, la grande singularité de son approche a à voir avec ses parties prises spectaculaires, en fait. Plutôt que de travailler sur de la pellicule 16 mm, ce qui est plutôt la norme dans le cinéma expérimental ou le type de cinéma sans caméra que Volution pratique, il va s'appliquer à travailler sur du 35 mm, donc une pellicule qui forcément implique davantage un travail sur l'espace. Ça prend plus. Évidemment, 16 mm prend moins d'espace dans un écran, tandis que le 35 mm, surtout s'il est en cinémascope, prend tout l'écran de projection dans un cinéma. C'est un type de cinéma que pratique Volution fait particulièrement pour les projections en salle, ce qui le rend déjà un peu atypique, donc parti pris étonnant, travailler sur 35 mm et en cinémascope. Et même si ce parti pris semble atypique et renvoie à une vision, traditionnelle pour les cinéphiles d'aujourd'hui de ce que peut être le cinéma, c'est-à-dire un cinéma projeté en salle en 35 mm, il n'empêche que pour un type de cinéma sans caméra, c'est pas spécialement traditionnel, au contraire, c'est extrêmement novateur. Et d'une certaine façon, en faisant du cinéma sans caméra, avec les moyens du 35 mm, du scope et d'un son Dolby SR, Volution remet en valeur et réactualise tout à fait l'aspect événementiel de la projection en salle. On a l'impression aujourd'hui que pour attirer le public pour une projection en salle, il faut beaucoup qu'il y ait d'attractions autour, donc plein de manières de se distraire du film lui-même. Et dans le cas de Stephen Volution, la distraction est inutile dans la mesure où la projection de ces films est un phénomène en soi à travers le travail sur les couleurs, le travail, encore une fois, je parlais de qualité presque stroboscopique dans les contrastes entre le noir et blanc dans les films de Len Lai. Je dirais que chez Volution, c'est mené à un point d'incandescence qui n'est pas anachronique, mais qui est tout à fait à part et singulier dans le cinéma contemporain, qui et ça mérite d'être souligné à ce titre. Je peux peut-être préciser encore plus en disant que aussi chez Volution, et là il s'inscrit dans la même tradition, dans une filiation très claire avec Len Lai et McLaren, la question de la synchronicité entre image et musique est essentielle, entre autres dans des films qu'on a projetés tout à fait récemment, ce mercredi, dans un film comme Brouhaha, il y a donc l'usage d'une musique d'Eric Satie, réinterprétée par le Vienna Art Orchestra, qui est un groupe fameux de jazz d'avant-garde, et tous les éclats de lumière, noir et blanc, mais aussi de couleurs, à plein d'endroits stratégiques, disons, dans le champ de l'image, dans le champ du cadre Cinémascope 35 mm, sont en adhésion complète avec le rythme et soulignent le rythme, donnent une qualité plastique au rythme et à la musique pour mieux la valoriser. Mais en même temps, c'est pas simplement une illustration de la musique, ce que pourraient dire un peu les commentateurs vaguement critiques du cinéma de Volution. C'est au contraire une manière de réinterpréter la musique, comme on reprend un grand standard dans le jazz et on se l'approprie. C'est ce que font souvent les jazzmen depuis toujours. Volution se réapproprie un classique de jazz, mais le déplace du côté de l'image, qui est extrêmement difficile, audacieux, et ce faisant, il crée une œuvre unique qui est pas simplement, je dirais, une œuvre de cinéma, mais qui montre comment le cinéma est aussi de la musique. La chanson Pays d'amour, qui est une chanson assez grinçante sur une sorte d'état des lieux politique et sécuritaire en France aujourd'hui, avec beaucoup de malice. J'ai l'impression que Jeanne Chéral montre que c'est la moindre des choses qu'un chanteur ou qu'une chanteuse actuelle en vienne à parler de cette situation, alors que généralement, chez les chanteurs de la génération de Jeanne Chéral, style Biolay ou Benabar, il est plutôt question de mœurs, de propos sentimentaux, dans une veine qui rappelle parfois celle de Renaud, mais la veine la moins politisée de Renaud, si on pense à Benabar, ou alors qui rappelle chez Biolay Françoise Hardy. Tout à coup, c'est plus possible, si on parle d'amour et de mœurs, de se fermer les yeux sur une situation où l'idéal de sécurité et de contrôle enfreint finalement la possibilité de s'épanouir en général. Donc, voilà ce que je peux dire pour résumer en d'autres mots ce que raconte Jeanne Chéral dans sa chanson qui est tirée de son dernier album, Charade. Zone d'inconfort politique et sociale, zone d'inconfort qui peut s'exprimer de toutes sortes de manières en art. Pas besoin de faire de la politique directement pour être dans le malaise. Le cinéma expérimental, c'est souvent appliqué à bien témoigner du malaise possible en s'attaquant violemment aux habitudes des spectateurs qui, par leur audace, viennent voir des films expérimentaux. Donc, mercredi dernier, justement, il y avait un film de Michael Snow cinéaste canadien, torontois, né en 1929. Un film de 64 qui s'appelle New York Eye and Ear Control. Et je suis toujours fasciné, parlant d'inconfort, de constater à quel point c'est possible aujourd'hui de présenter des œuvres qui ont 40, 30, 40 ans, 50 ans, et puis susciter sensiblement des réactions semblables à ce qu'une telle projection aurait pu susciter il y a 30, 40, 50 ans. Et parfois même, susciter un rejet encore plus violent ou une incompréhension encore plus vive. Comme si une certaine manière d'envisager le cinéma, une certaine manière de proposer de l'avant-garde avec une certaine radicalité, sans vouloir séduire à tout prix et avec une dimension énigmatique, faisait en sorte que le public n'accrochait pas, était de moins en moins patient. C'est une hypothèse, mais c'est clair que parfois des œuvres qui ont été faites il y a déjà plusieurs décennies demeurent énigmatiques, demeurent appellent toujours en fait des commentaires pour mieux les éclairer, pour mieux saisir de quoi il s'agit dans ces films. Et les commentaires, ils peuvent se faire par quelqu'un qui est spécialiste, mais ils peuvent se faire aussi par quelqu'un qui est simplement ouvert, qui va voir des films et qui a envie de comprendre ce qu'il voit. Y a des films qui sont très désagréables à regarder, qui sont pour autant parfois fascinants. C'est le cas des films d'Étienne O'Leary qui ont été présentés aussi mercredi dernier. Fascinants par leur travail, par leur maîtrise de l'art, par la capacité d'une œuvre à témoigner d'un malaise ou de la folie. Et même si parfois on a envie de partir, si on reste jusqu'au bout, on est récompensé parce que c'est des œuvres qui nous habitent. Et évidemment, l'espace de l'art me semble assez grand, assez large pour laisser de la place à l'expression du malaise, à l'expression de tous les sentiments possibles à vivre dans la vie courante. Et c'est le cas d'un film comme New York Eye and Ear Control, surtout au niveau de l'énigme, je dirais. Donc peut-être que je peux décrire un peu ce film-là en disant qu'il s'inscrit dans, disons, la première frange du cinéma, de l'œuvre expérimentale de Michael Stowe, les premières années de son travail. Ça vient tout juste avant Wavelength. Et je pourrais peut-être commencer par Wavelength, qui est un peu son je le dis sourire en coin, son blockbuster de films expérimentaux. Un film qui fait finalement un zoom avant de 45 minutes dans un atelier. Et qui va s'arrêter sur une photo dans le fond de l'atelier où l'on voit la mer. Donc zoom avant où peu à peu la photo va devenir l'unique plan, le plan principal dans le film. Et c'est très dramatique tout ça, ça prend 45 minutes. C'est un film très fascinant qui a un succès réel, une reconnaissance immédiate au moment de sa sortie. Et plus le film avance, plus le son aussi change, donc un son synthétique de plus en plus aigu, ce qui est évidemment difficile et travaille sur la tolérance et la patience du spectateur. Plus que sur le malaise d'ailleurs. Donc c'est vraiment une expérience de l'espace, du temps et du son que propose Michael Snow dans une tradition finalement plastique, ou en tout cas dans une approche qui relève de l'art contemporain qu'on connaît aujourd'hui, qui s'applique à expérimenter toute manière de représenter l'espace. Ça a commencé et ça commence du moment où on questionne la figuration en peinture. Donc ça commence bien avant, en fait, mais on va dire les choses un peu grossièrement pour avancer un peu. Alors, New York Eye and Ear Control, c'est quoi? Ben, c'est entre autres un film qui montre une woman at work. Woman at work, c'est une sorte de silhouette de femme qu'a inventé Michael Snow au cours des années, au cours des années 60, et qui était en fait un dessin, qui est supposé rappeler de manière ironique, au milieu des années 60, cette illustration de Men at Work, que l'on voit partout du moment qu'il y a de la construction dans une ville, donc homme au travail, etc. Faites attention, ralentissez. Donc tout à coup, c'est Woman at Work, donc une dame avec une valise, qui serait une fille moderne, finalement, dessinée simplement comme une silhouette, comme un pictogramme chez Michael Snow. Et cette silhouette qu'on voit un peu partout et qu'on voit aussi dans dans la ville de Toronto. Si vous baladez encore aujourd'hui, Snow en a placé une. Vous pouvez, même quelques-unes, je crois. Donc, vous pouvez croiser cette silhouette qui est devenue une sorte de manière de souligner la singularité torontoise de façon un peu anonyme à travers le regard cinglant et amusé de Michael Snow. New York Air Control présente cette silhouette sous toute forme, dans toutes sortes de contextes. D'abord dans une première partie, dans des paysages qui ne rappellent pas du tout New York. On se retrouve sans doute près de New York, sur des plages, sur des pierres au bord de la mer avec cette silhouette. Et c'est plusieurs plans fixes qui s'enchaînent avec cette silhouette. Il y a un moment d'impatience qui peut déjà poindre chez le spectateur dans les premières minutes. Dans la mesure où on voit ces images qui s'enchaînent, qui sont comme des photos en mouvement finalement, où ce qui bouge plus ou moins, c'est la vague qui parfois submerge une silhouette, cette silhouette de Woman at Work qu'on a laissée sur le sable. Mais c'est possible aussi, donc le spectateur est rapidement impatient en regardant ces images dans la mesure où au début, on a présenté le nom de tous les musiciens qui allait créer la bande originale de ce film, qui est exceptionnel. Des musiciens comme Albert Taylor, Gary Peacock, qu'on connaît bien aujourd'hui, dans la mesure où il accompagne Keith Jarrett, par exemple. Roosevelt Rod, fameux tromboniste. Et d'autres, John Chikai, Don Cherry, trompettiste exceptionnel, qui a accompagné Ornette Coleman, entre autres. Ces musiciens-là sont annoncés et pendant plusieurs minutes, il n'y a pas de musique. Et moi-même, en tant que programmateur, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le film, j'étais un peu angoissé, je pensais qu'il y avait un problème de son. c'est le genre de film qui travaille sur la patience du spectateur. Et je vous demanderai d'ailleurs de patienter aussi, puisque je vais dire encore quelques mots sur Snow après la pause.
La 12e édition du Mois Multi, du 3 février au 2 mars 2011. 30 jours de festivités pour faire l'expérience des arts multidisciplinaires et électroniques. Des spectacles, des installations, des cabarets audio et du vidéo live. À plus de 125 artistes du Japon, de la Norvège, de la Suisse, de la France et du Canada. Billets en vente à Méduse et sur le réseau Billettech. Le Mois Multi, du 3 février au 2 mars. Une présentation des productions Recto Verso. Information et programmation complète, moimulti.org.
CKRL passe en mode financement. Les 1er, 2 et 3 avril prochains, le 89.1 sera animé d'une manière toute spéciale. La programmation régulière laissera sa place à une programmation haute en couleur et en son. Pour sa 30e édition, le Radioton sera marqué d'une panoplie d'invités aussi variés que sa programmation. Des hommes et des femmes d'affaires, des personnages politiques, des artistes se succéderont au micro pour partager leur passion et leur amour pour la plus ancienne station de radio communautaire francophone au monde. Soyez à l'écoute, le 1er, 2 et 3 avril prochain, les efforts seront déployés afin que vous soyez comblés, car la personne la plus importante de cet événement, c'est vous. Envoyez votre don avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner un certificat de $300 du restaurant Le Poisson d'Avril. Le tirage aura lieu le 1er avril à 17h. Pour l'occasion, faites un don pré-radioton de $10 et plus avant le 1er avril.
Bal du lézard.
Pour sa 25e année, le Bal du lézard poursuit sa mission de faire découvrir au public des artistes et groupes de la relève. Le tout dans l'environnement unique du bal et devant une clientèle qui a soif de nouveaux sons, toujours confondus.
À ne pas manquer en février, le 5, la pop franco de Jean-François Lessard. Le 12, la formation folk indie Around Joshua. Le 19, The Jack Ross Project. Et le 26, le country folk rock de la formation Tire le Coyote.
Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue.
Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Vous avez développé votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nîmes-Cassé du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
Là, tu dis c'est gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben, nous autres avec.
Mystérieux, qu'on vous est le film de Marc-Denis de Neige. Qu'est-ce qu'il écoute de cette pêche?
Qu'est-ce que je vous ai dit?
Qu'on vous est le film de Marc-Denis de Neige. Qu'est-ce qu'il écoute de cette pêche?
Mystérieux, qu'on vous est le
un instant.
Moi, je m'en souviens plus, mais c'est ça.
Guillaume Fleur avec vous sur les ondes de CKRL. Vous écoutez au 7e ciel, regarde sur le cinéma, dernière demi-heure. Juste avant la pause, je parlais de Michael Snow, cinéaste protéiforme, multidisciplinaire, dont on a présenté un film justement dans le cadre du mot multi il y a quelques jours, mercredi dernier, le film New York Eye and Ear Control. Michael Snow est peintre, sculpteur, cinéaste, photographe plasticien, pianiste de jazz. Il est aussi holographe. Je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que dans les années 80, il a créé des hologrammes. Une forme d'art presque déchue, pourrait-on dire. Du moins oubliée. Mais certainement que certains artistes fascinés par l'aspect vintage de la technologie récente pourraient encore s'y attaquer à cette manière d'utiliser la technique et à l'holographie. Michael Snow, donc, à travers son film New York Eye and Ear Control, travaille sur la patience du spectateur. C'est ce que je disais tout à l'heure, entre autres en présentant sa silhouette Woman at Work dans toutes sortes de contextes. Dans des contextes qui mettent en valeur souvent la simple qualité photogénique d'un cadre où est placée cette silhouette, silhouette qu'on voit d'abord hors de la ville de New York. Et on travaille sur la patience du spectateur aussi, parce qu'on n'entend pas les musiciens qui sont annoncés en début de film, qui devraient jouer. Alors tous les mélomanes, fans de jazz et de la New Thing, parce que c'était surtout des musiciens de free jazz qui étaient sollicités pour cette bande-son, sont forcément un peu pantois devant cette espèce d'objet plastique que nous propose Snow, qui, avec 40 ans de distance, nous laisse encore perplexes. Donc, sans vouloir livrer toutes les clés de ce film, ce qui serait littéralement impossible parce que la dimension énigmatique de ce film-là est presque une part importante finalement du film, l'aspect mystérieux, on peut quand même en dire quelque chose. Et déjà en décrivant le film, en faisant le récit de ce film-là, on peut réussir à révéler quelques clés, ou du moins à souligner des questions que peut-être Michael Snow veut nous entendre formuler ou veut provoquer chez nous. Et je pense que c'est vraiment un film qui interroge finalement le spectateur face au médium cinématographique. Je dis « je pense que », et à chaque fois que je dis « je pense que » dans cette émission, il faut se méfier. Généralement, je suis simplement en train de reprendre une idée qui a déjà été dite, et même si je dis « je pense que », même si je dis pas « je pense que », je le fais, mais je suis simplement un peu plus sobre et un peu plus neutre. Et c'est vrai que, je dis tout ça sourire en coin, et c'est vrai que, dans le cas de Michael Snow, on a souvent dit que son cinéma abordait d'abord le cinéma comme médium. Donc, c'est un cinéma qui parle du cinéma, des moyens du cinéma, de la façon la plus pure. Et c'est là où il rejoint Landline dont on parlait dans la première partie de l'émission. Intérêt pour l'espace, mise en valeur du son et toute cette volonté chez Snow de mettre en valeur simplement les particularités du cinéma de façon assez pure, de façon immédiate et radicale, renvoie le spectateur à ses idées préconçues, évidemment, en ce qui a trait à cette question « qu'est-ce qu'un film ?» Mais il ramène aussi le spectateur à lui-même et à sa capacité à rester dans une salle, à voir un film pour lequel l'objet de désir du cinéaste et l'objet de désir du spectateur sont très peu soulignés. C'est-à-dire que le spectateur peut désirer voir certaines choses dans un film et il y va pour ça. Ça peut être des acteurs, ça peut être simplement voir devant lui une belle histoire dont il veut connaître la suite. Et pour Snow, disons, s'il s'inscrivait dans une manière plus traditionnelle de faire de l'art, ben il montrerait à un moment ou l'autre ses obsessions soulignées à gros traits ou présenterait sa singularité dans le film. Au contraire, on a l'impression que le point de vue du cinéaste se définit justement comme absent. Donc, le point de vue de Michael Snow et sa thématique obsessionnelle, ce serait celle de l'absence. L'absence à soi, ou alors la caméra n'est plus qu'une machine et elle a remplacé le regard humain sur des humains. Et on a l'impression qu'un étranger, un étranger à la nature humaine, regarde le monde dans les films de Michael Snow et le spectateur se ressent d'autant plus étranger à ce monde qui pourtant il devrait connaître. C'est toute cette dimension mystérieuse qui fait la qualité, la perspicacité, la complexité du cinéma de Snow, ce qui fait aussi à certains moments son aspect extrêmement difficile. Pour préciser encore plus, juste avant de revenir encore une fois sur New York Eye and Ear Control, je pourrais parler de la région centrale qui est son film peut-être le plus légendaire ou le plus radical. Un film de 3h15, réalisé à 70 km au nord de cette île. Un tournage qui a duré 5 jours. Bon, à ce niveau-là, ça va, on s'inquiète pas trop. Donc, un tournage qui a duré 5 jours et qui est en fait un enchaînement de plans-séquences. Et ces plans-là dépeignent tout l'espace visible de la caméra, c'est-à-dire que avec l'aide, entre autres, de techniciens de l'Office national du film, l'équipe de Michael Stone avait mis au point un gyroscope qui permettait de balayer tout l'espace de la caméra, qui entourait la caméra finalement, dans une sorte de désert nordique, en créant des plans séquences. Et c'est cette idée-là, donc, de point de vue à 360 degrés, qui rappelle évidemment, disons, l'esthétique, l'esthétique du pôle Nord. On peut le dire comme ça, c'est un des artistes qui est parmi les premiers, c'est peut-être intéressé à l'aspect esthétique du Nord qui est très à la mode aujourd'hui. Disons que sinon, c'est non seulement intéressé à cet aspect-là, mais il s'y est attaqué littéralement, de telle sorte que, à mon sens, déjà avec la région centrale, une telle manière, une telle volonté artistiquement d'appréhender la qualité plastique, esthétique du Nord était déjà épuisée. Il est allé au bout de son sujet, en tout cas avec un tel film, et au bout, je dirais, de la patience des spectateurs. Et dans New York Eye and Ear Control, ce qui travaille davantage sur la patience du spectateur, c'est évidemment, comme je le disais, le fait qu'on a du mal à saisir quel est le désir du cinéaste, et finalement, on se rend compte, en y pensant bien, que c'est d'étrangeté même à qualifier, l'étrangeté même du point de vue du cinéaste et son incapacité à qualifier son désir qui fait toute la singularité de ce film. Donc, je pourrais dire pour terminer que même à la fin, tout à coup il y a des sujets humains qui apparaissent, parce que tout au long du film finalement, qui dure 35 minutes, on voit la silhouette Woman at Work dans plusieurs contextes, à la plage ou ensuite dans la ville de New York. Peu à peu, elle disparaît au profit de réels mannequins qui sont derrière la silhouette, parce qu'on voit la silhouette de toutes sortes de manières, y compris à un moment donné dessiné sur un carton blanc. Donc la mannequin disparaît, la silhouette disparaît, et derrière elle, découpée, se trouve une mannequin. Donc le sujet humain tout à coup apparaît. Ensuite, on va voir l'équipe du film, littéralement, aussi bien le réalisateur que tous les musiciens qui ont participé au film. Et ils ne parlent pas, évidemment. Il n'y a pas de son. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de son à ce moment-là direct. Il y a soit aucun son du tout, donc silence, soit une musique de free jazz qui en vient à être en parfait porte-à-faux avec ce qu'on voit. Donc, contrairement à Lenline ou à Volotion, dont je parlais tout à l'heure, des cinéastes qui ont envie d'exprimer la musique par l'image, Snow montre la fracture radicale entre les images qu'il veut montrer et le son qu'il veut mettre de l'avant. Oui, on entend Ralph Towner dans mon vieux temps sur un album de l'étiquette ACM 1975, c'est l'album Solstice. Pour terminer, en fait, le dernier quart d'heure de cette émission, on va changer tout à fait de registre. Finalement, ça va être une façon de rentrer dans la dimension peut-être festive de rétro-gardiste, une émission qui suit, dans la mesure où j'ai envie de parler du cinéaste Whit Stillman, qui est un cinéaste qui est assez oublié maintenant, en fait. Et c'est bien dommage, il y a quand même quelques fans, mais c'est un cinéaste américain, en fait, qui a une influence assez importante sur une certaine manière de faire de la comédie dans les années 2000 aux États-Unis et au-delà, parce qu'il est aussi lui-même sous influence de certains cinéastes qui ont fait de la comédie avant lui et qui sont pas nécessairement américains. Mais Whit Stillman, c'est un cinéaste qui s'est intéressé à des sujets qui... à l'époque, pouvait paraître un peu out ou un peu surprenant. Du moins, il était un peu aux avant-postes de thématiques qui vont paraître assez importantes et montrer de manière plus tapageuse, moins subtile, sans doute, dans les années qui suivront. En particulier, et là, ça vous sonne une cloche, Whit Stillman est le réalisateur du film Last Days of Disco. Donc, un film qui est défait en 98 et qui, finalement, est une sorte pratiquement d'autoportrait ou de carnet des expériences de Stillman qu'il transpose dans les personnages féminins principaux de son film. À l'époque où lui-même traînait au Studio 54 dans sa jeune vingtaine flamboyante, j'imagine. En général, pour mieux contextualiser un peu, Whit Stillman, et pour mieux contextualiser son univers, il représente des personnages plutôt new-yorkais ou à la limite américains cultivés en vadrouille. C'est le cas du film qui a précédé Last Days of Disco qui s'appelle Barcelona, qui se passe en Espagne. Et ces personnages-là sont donc des personnages new-yorkais, sophistiqués, des preppy en fait, comme on les appelle. Plutôt du côté de l'Upper East Side qu'autre chose. Donc, de la haute bourgeoisie new-yorkaise. C'est le cas de son film Metropolitan qui fait le portrait d'un personnage qui commence des études à Princeton, qui est chez sa mère pendant les fêtes et qui cherche un peu à quel sein se vouer. Tout en vivant dans un milieu extrêmement sophistiqué et froid, en fait. Dans le cas de Last Days of Disco, qui est un film dont je parle parce que je l'ai découvert finalement il n'y a pas si longtemps, en grappillant dans la collection Criterion, qui est une excellente collection DVD américaine que l'on trouve facilement, qui est un peu la collection dont j'ai déjà parlé, prestigieuse pour le cinéma de répertoire, cinéma d'auteur, qui a aussi une valeur éditoriale dans la mesure où il met de l'avant des cinéastes qu'on a un peu oubliés et auxquels on pense pas nécessairement ces années-ci. C'est le cas de Whit Stillman, donc il y a comme ça une volonté éditoriale des fois de souligner la part de certains cinéastes. Et dans Last Days of Disco, ce qu'on retrouve, c'est en particulier des personnages qui sont... encore une fois, laissé à eux-mêmes, c'est déjà le cas dans Metropolitan, c'est encore plus le cas dans Barcelona, parce que là, en fait, on a le récit de deux cousins qui se retrouvent un peu en décalage avec leur américanité profonde dans un contexte espagnol beaucoup moins guindé que le milieu dont ils viennent, parce que c'est toujours le même type de milieu que représente Stillman dans ses films. Et dans Last Days of Disco, ce qu'il montre et qui est vraiment intéressant, c'est exactement pas ce à quoi on s'attend lorsqu'on voit le titre d'un tel film et le résumé. On a l'impression que ça va être un témoignage de toute la dimension olé-olé, excentrique qui a pu caractériser l'époque que dépeint Stillman. Mais au contraire, finalement, ce qu'il met de l'avant, c'est plutôt la solitude de ses personnages, dans un registre qui n'a rien à voir avec, par exemple, celui de Funky Town, donc qui est le film récent québécois qui met en scène cette époque, en montrant les effets d'ailleurs de résonance entre New York et Montréal à cette période. Donc, c'est pas un récit Last Days of Disco qui se veut tragique ou qui montre tous les excès, toute la dimension superficielle dans son aspect le plus évident, c'est-à-dire le goût de la célébrité. Donc c'est pas nécessairement ça. C'est plutôt la superficialité des personnages et leur incapacité en fait à communiquer avec qui que ce soit, tout en parlant constamment. Les personnages de Stillman sont vraiment antipathiques, dans un sens dans un sens, je dirais, dans le sens subtil du terme, c'est des personnages antipathiques et subtils. Ils sont pas attachants, ils sont froids, ils parlent constamment, ils sont pas en dialogue les uns avec les autres, ils sont toujours dans leur bulle. Et c'est une des forces du cinéma Stillman, justement, de s'acharner, en fait, à présenter des personnages qui sont volontiers antipathiques et à enfoncer le clou de manière récurrente sur leur l'aspect de ces personnages qui sont les aspects des personnages qui sont les plus désagréables. Et entre autres, évidemment, leur capacité à se relever ça a relevé 4 fois après être tombé 3 fois, sans pour autant changer leur fusil d'épaule. Et sans pour autant faire d'autocritique. Oui, alors on vient d'entendre encore quelques notes de Ralph Towner. À l'instant, il y a un petit pépin technique de manipulation que vous avez peut-être même pas remarqué. Mais voilà, il y a un petit délai entre le moment où j'ai parlé et le moment où la pièce a démarré. Mon comparse de CKRL, Jean-Denis Côté, me faisait remarquer qu'à un moment donné, dans mon dernier commentaire, je parlais des personnages de Whit Stillman en disant qu'ils étaient à la fois sympathiques et subtils. C'est un de ces moments typiques, en fait, où j'hésite entre deux idées et j'hésite à dire la bonne idée, en fait. Je me demande ce que je veux dire, finalement. Et antipathique mais subtil, qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Ça veut dire que dans le cinéma de Whit Stillman, Last Days of Disco, Barcelona ou encore Metropolitan, ces personnages sont désagréables, mais c'est jamais spectaculaire. C'est-à-dire qu'ils sont pas spectaculairement désagréables, ils sont juste constants de bout en bout, constamment désagréables. Et à la fois, ils sont drôles dans leur obstination à ne jamais changer d'attitude, à toujours suivre une ligne droite. Bon, des personnages comme Last Days of Disco se retrouvent à aller droit dans le mur, à traîner encore au Studio 54 ou dans les clubs de disco à un moment où c'est clair que on est en plein déclin. Et c'est cette espèce de décalage entre la réalité courante et la superficialité des personnages qui veulent à tout prix suivre la mode, mais sont vraiment pas dans le coup, qui est souligné à travers leur aspect antipathique, finalement, qui est leur obstination ridicule. Et c'est d'une manière, en ce sens-là, c'est une manière assez subtile que Whit Stillman montre le revers de personnages idéalistes ou idéalisés dans les fictions du cinéma américain. C'est-à-dire que l'obstination, l'entêtement, est souvent vu, évidemment, dans les films de fiction où on veut mettre de l'avant certaines figures héroïques qui, forcément, vont toujours faire face à des obstacles, ayant en tête qu'ils ont une idée fixe que la communauté autour d'eux ne parvient pas à accepter. Là, au contraire, tous ces personnages-là ont des idées fixes, et c'est clair que personne ne veut les suivre et qui sont les seuls à se suivre et à comprendre vraiment quels sont leurs tenants et aboutissants et à comprendre vraiment pourquoi ils devraient encore aller sur un chemin où finalement il est clair qu'ils se vouent à une impasse. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Est-ce et c'est cette manière d'entêtement qui a à voir aussi avec l'entêtement certainement du réalisateur, puisqu'il a fait 3 films avec toujours des personnages qui se trouvent dans cette situation-là, dans cette espèce de situation circulaire où, dont il ne sort pas, comme des petits hamsters toujours pris en cage, peu importe où il se trouve, que Stillman a peut-être eu du mal à trouver son public et à continuer à enfoncer le clou de ses fictions où ses personnages sont tellement entêtés et tellement abrutis. Et ce qui rend aussi son cinéma intéressant, je pense, c'est qu'il y a une dimension politique assez forte, en fait, liée au fait de critiquer une certaine attitude qui ailleurs est idéalisée dans les fictions américaines. Donc, cette idée d'entêtement, d'acharnement, peu importe les épreuves. En fait, ça pointe du doigt une dimension assez psychotique et subtilement... je suis parti là-dessus. Subtilement totalisante qui est à l'œuvre dans la culture américaine et dans les personnages de fiction qui s'y trouvent et qui y abondent. Entre autres, cette volonté d'hégémonie qui fait évidemment toute la force et tout l'aspect embêtant pour nous, par exemple, de la culture américaine, cette idée que la culture américaine est universelle, qu'elle n'a pas à coloniser le monde, c'est plutôt le monde qui doit venir à elle, et tous les moyens sont bons pour être présent partout et faire en sorte que la culture américaine soit la culture, point. Ben, c'est le côté conquérant du cinéma américain en particulier qui se retrouve questionné là-dedans dans un film comme Barcelona de Stillman, où des deux Américains se retrouvent à Barcelone et sont incapables de nouer des liens réels avec qui que ce soit dans le cadre barcelonais, dans la mesure où ils sont tellement obsédés par la réalité quotidienne passée de leur bonne vieille vie américaine que même dans une sorte de décalage et d'exotisme, ils ne peuvent sortir de la prison qui est finalement leur tête. Leur tête, leur culture est comme un étau dont ils ne peuvent s'échapper. Voilà. J'aurais aimé parler encore un peu des influences de Stillman dans le cinéma contemporain, mais ce sera pour une autre fois. Je dois maintenant vous laisser et vous dire à très bientôt. De retour la semaine prochaine pour un autre épisode au 7e ciel, Regard sur le cinéma.